Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du mardi 19 janvier 2016. À la une ce soir.
Attentat à Ouagadougou, 3 assaillants présumés encore recherchés.
Au Burundi, le bilan s'alourdit alors que débute le dialogue interburundais. Au moins 5 cadavres ont été retrouvés hier à Bujumbura et dans Bujumbura rural.
Des centaines de personnes ont été tuées depuis le début des manifestations en avril de l'année dernière et d'autres arrêtées par les services compétents.
Au Bénin, coup d'arrêt de la justice aux travaux de construction du chemin de fer Cotonou-Niamey.
La cour d'appel de Cotonou nous a rétablis dans nos droits et l'incident Bolloré, pour nous, n'est qu'un accident de parcours.
Sous l'égide de l'ONU, les Libyens ont finalement un gouvernement d'union nationale.
L'Iran récolte les avantages de l'accord nucléaire signé en juillet dernier. 32 milliards de dollars gelés à l'extérieur vont être récupérés dans les prochains jours.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Burkina Faso, outre les 3 assaillants tués, 3 autres seraient encore en cavale. Selon les autorités françaises, à Ouagadougou, l'enquête se poursuit 4 jours après les attaques terroristes qui ont fait au moins 30 morts. La plus récente victime est la photographe franco-marocaine Leïla Alaoui, dont le corps sera rapatrié au Maroc pour être enterré demain. Les autorités burkinabées ont adressé un rapport aux députés et rencontré le corps diplomatique sur la situation. Le point à Ouagadougou avec Zoumana Ouenogo.
Pour défaut d'onction du Parlement au Premier ministre, c'est plutôt un rapport circonstancié du président du Faso sur les attaques qui a été lu aux députés. On y découvre les mesures prises pour prévenir tout acte terroriste. Le président de l'Assemblée nationale a invité les députés à se pencher sérieusement sur la lutte contre le terrorisme en votant des lois qui donnent tous les moyens nécessaires au gouvernement pour venir à bout de ce mal au Faso. Ne pouvant pas se rendre à l'Assemblée nationale, le ministre de la Sécurité et son homologue des Affaires étrangères ont organisé des rencontres, d'abord avec le corps diplomatique, pour lui présenter le plan d'action du gouvernement. À la sortie, le porte-parole du corps diplomatique, l'ambassadeur des États-Unis au Burkina Faso, a rassuré du soutien et des États-Unis et de la communauté internationale au Burkina. Ce qui a permis au ministre des Affaires étrangères, Alpha Barry, d'affirmer que le Burkina Faso ne court aucun risque de se voir taxé d'infréquentable. Après les diplomates, le gouvernement a rencontré les familles des victimes pour les réconforter et les assurer de tout le soutien de l'État dans ces circonstances difficiles. Zoumana Ouenogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Crise burundaise, le bilan s'alourdit. Au moins 5 cadavres ont été retrouvés hier à Bujumbura et Bujumbura rural. Des assaillants aux mobiles inconnus. C'est dans ce contexte qu'a débuté aujourd'hui le dialogue interburundais, des pourparlers rejetés par l'opposition qui parle de mascarade. Pour tenter de relancer les discussions inclusives, des membres du Conseil de sécurité des Nations Unies sont attendus dans les prochaines 24 heures dans la capitale burundaise. Reportage de Christophe Kourounziza.
Lundi vers la fin de l'après-midi, un homme à motocyclette tire sur 3 personnes en train d'assouvir leur soif dans un bistrot situé à la 6e avenue du quartier cosmopolite de Biza. Toutes ces personnes meurent sur place. La venue des policiers de la brigade anti-émeute mise sur pied l'année dernière crée une panique dans ce quartier où jadis toutes les ethnies et nationalités différentes se retrouvaient pour s'amuser sans peur du voisin ni du lendemain. Biza de Michopo est devenu un des endroits où les gens en armes tuent sporadiquement des innocents. La police reconnaît qu'un certain Maroua, officier de la police, a été tué avec Protein Dikurio, le directeur général chargé des ressources humaines au ministère de l'Éducation, et un avocat, maître Emmanuel Ndouimana. La police indique que les enquêtes ont déjà commencé pour retrouver les auteurs de ce forfait. Par ailleurs, 2 autres cadavres ont été retrouvés dans la commune de Mutimbuzi, en province de Bujumbura Oural. Ils ont été identifiés par les habitants de la capitale qui affirment que l'un de ces individus vivait dans le quartier contestataire de Jabé, mais sans affiliation politique. Il avait été appelé par un ami pour acheter une parcelle au sud de la capitale, mais son corps a été retrouvé assassiné dans une brousse de Muzinda dans Bujumbura rural. Des centaines de personnes ont été tuées depuis le début des manifestations en avril de l'année dernière et d'autres arrêtées par les services compétents. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, le Front citoyen, une plateforme composée des acteurs de l'opposition et de la société civile, dénonce l'enlèvement et l'interpellation de certains de ses membres ce mardi. Selon l'opposant Martin Fayulu, les acteurs et sympathisants du Front citoyen voulaient célébrer la mémoire des victimes des manifestations du 19 janvier 2015, protestation qui dénonçait le vote de la loi électorale à la chambre basse du Parlement. Écoutons Martin Fayulu.
Nous avons déjà une centaine de nos militants, nos adhérents et nos compatriotes qui sont arrêtés. Vous ne pouvez pas prendre des gens et les enlever et les amener à des endroits inconnus. Et ces gens-là ont des téléphones. On les appelle, ils ne répondent plus. À Delvaux, on a enlevé plus de 25 personnes. À Kanluka, on a enlevé plus de 10 personnes. À Mongafula, plus de 25 personnes. À Kingabwa, partout, on a enlevé des gens. Comment voulez-vous vivre dans un pays où certains citoyens, quand ils sont dans l'opposition, ils n'ont plus de droit. Dernièrement, nous avons vu la mouvance kabyliste avec ses membres défiler ici, défiler pour réclamer les dialogues d'après eux. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Où était la police pour aller interdire ces membres-là de ne pas défiler? Où étaient les militaires pour enlever ces gens-là? Et pourquoi aujourd'hui on doit le faire? Nous allons préparer le 16 février parce qu'aujourd'hui, nous nous sommes rétractés simplement pour dire on ne veut pas aller dans les lieux.
L'opposant Martin Fayulu en RDC. Mali, le comité de suivi de l'accord pour la paix, déplore la lenteur de la mise en œuvre de certaines clauses importantes du document. À l'issue d'une réunion à Alger, le comité demande aux parties concernées de prendre leurs responsabilités. Le comité a relevé des lenteurs dans la mise en œuvre d'engagements clés de l'accord de paix, mais s'est toutefois félicité des progrès enregistrés, notamment la cessation des hostilités, selon le communiqué.
Le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés tire la sonnette d'alarme au Niger. Des dizaines de milliers de personnes nouvellement déplacées ont désespérément besoin d'aide internationale. L'agence onusienne rapporte qu'environ 100 000 personnes ont fui ces dernières semaines contre les attaques lancées par les insurgés nigérians de Boko Haram.
Au Sénégal, la réforme constitutionnelle voulue par le chef de l'État Macky Sall, prévoyant une réduction immédiate du mandat présidentiel, dont le nombre est limité à 2 consécutivement, a été rendue publique et soumise au Conseil constitutionnel. Le texte, qui détaille les orientations exposées par le président lors de ses vœux du nouvel an, porte sur 15 réformes, comprenant les règles électorales et l'élargissement des pouvoirs de l'Assemblée nationale et du Conseil constitutionnel.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Libye, un gouvernement d'union nationale a été formé. C'est la suite de l'accord parrainé par l'ONU. Mais ce n'est qu'un premier pas vers une sortie de crise, Idriss Fall.
C'est un gouvernement de 32 ministres dirigé par l'homme d'affaires Fayez El-Sarraj, originaire de Tripoli. Les portefeuilles ont été soigneusement répartis selon les 3 régions libyennes. Les ministres ont été nommés par le Conseil présidentiel, une instance mise en place après la signature en décembre au Maroc de l'accord politique sous l'égide de l'ONU. Cet accord a été signé par des membres des 2 parlements rivaux, mais n'a jamais été ratifié par les 2 chambres législatives rivales. La nouvelle équipe doit être approuvée dans les 10 jours par une majorité des 2/3 du Parlement reconnue par la communauté internationale. Martin Kobler, émissaire de l'ONU, a exhorté ce Parlement qui siège dans l'est du pays à se réunir rapidement pour valider le gouvernement d'union. Il y a urgence car le groupe État islamique n'a cessé de renforcer sa présence en Libye. Il a revendiqué au début du mois 2 attentats meurtriers et a lancé une offensive vers le croissant pétrolier dans le nord du pays, dont les réserves sont estimées à 48 milliards de barils.
14 personnes ont été légèrement blessées à Kasserine, dans le centre-ouest de la Tunisie, lorsque la police a dispersé des manifestants réclamant des emplois. L'incident de ce mardi intervient quelques jours après le décès controversé d'un jeune chômeur. Selon un responsable du ministère de l'Intérieur cité par l'AFP, la situation était stable à la mi-journée, mais la tension persistait. Kasserine, l'une des régions les plus pauvres de Tunisie, a plusieurs fois connu, depuis la révolution de 2011, des mouvements de protestation dégénérant parfois en affrontements violents avec la police.
L'Iran prévoit de récupérer 32 milliards de dollars d'avoirs bloqués dans les banques internationales avec la fin des sanctions économiques et financières à la suite de l'entrée en vigueur de l'accord nucléaire. Dans une première réaction à l'annonce samedi de la mise en œuvre de cet accord, le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, s'est félicité de la fin d'une partie des sanctions, tout en insistant sur la nécessité de ne pas relâcher l'attention face à ce qu'il appelle la duperie des États-Unis. Selon l'accord, la levée de l'intégralité des sanctions sera échelonnée sur 10 ans.
L'ancien président israélien Shimon Peres a hâte de retourner au boulot 5 jours après avoir subi une intervention chirurgicale pour un problème cardiaque. Fondateur du centre Peres pour la paix, l'icône du parti travailliste demeure à 92 ans très actif dans la société civile israélienne et sur la scène internationale.
L'Autriche, qui veut réduire le flux des demandeurs d'asile, va déployer demain 500 soldats au principal point de passage avec la Slovénie pour effectuer un contrôle systématique des migrants. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui à l'AFP une source policière. L'Autriche a vu le nombre des demandes d'asile tripler en 2015 pour atteindre 90 000.
L'organisation humanitaire Médecins sans frontières a dénoncé la politique d'immigration de l'Europe en 2015 comme un échec catastrophique qui a mis en danger les demandeurs d'asile et créé plus d'affaires pour les contrebandiers.
Et la Cour suprême des États-Unis a accepté d'entendre un cas défiant un décret pris par le président Barack Obama pour protéger de l'expulsion plus de 4 millions d'immigrants sans papier.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec John Lindon.
En Côte d'Ivoire, les travaux d'aménagement de la baie de Cocody, appelée à devenir la vitrine d'Abidjan, ont démarré lundi avec une première phase d'un coût de 11 milliards de francs CFA. Évalué à un coût total de 100 milliards de francs CFA, le projet a été dévoilé pour la première fois le 3 juin dernier lors de la visite du roi Mohamed VI en Côte d'Ivoire, en présence du président ivoirien Alassane Ouattara. Au Sénégal, et selon les dernières données relatives aux exportations pour l'année 2015, le secteur de la pêche occupe la première place pour une valeur de 193,5 milliards de francs CFA, soit 20,87% au sein des exportations, suivi de l'or à usage non monétaire pour 145,2 milliards de francs CFA. Le ciment arrive en troisième position avec 103,1 milliards de francs CFA. D'après le site internet Financial Afrique, les exportations pour la pêche concernent aussi bien la pêche industrielle qu'artisanale et dénotent un regain d'activité dans ce secteur. Le président Ismaël Omar Guelleh de Djibouti a donné le 14 janvier dernier le premier coup de pioche des travaux de la centrale solaire du Grand Bara au sud de la capitale Djibouti. La réalisation, le financement et l'exploitation de cet ouvrage d'une capacité de 300 MW est estimée à 360 millions d'euros. Djibouti assure 65% de ses besoins grâce à l'importation d'électricité depuis l'Éthiopie.
La Minute Éco, merci John.
Et nous passons tout de suite à la page sport. On commence avec le championnat d'Afrique des Nations dans le groupe D. Les premiers matchs ce mardi, le Zimbabwe a battu la Zambie 1-0 et le Mali a fait jeu égal face à l'Ouganda 2-2. Hier, dans le groupe C, malgré un doublé d'Ahmed Akashi, la Tunisie a été tenue en échec par la Guinée 2-2. Bonne nouvelle pour Georges Léonard Sagno. Le Nigeria a écrasé le Niger 4-1. Le prochain match du Rwanda, ce sera demain mercredi face au Gabon. Le Rwanda, qui, lors de sa première sortie, a surpris les éléphants de la Côte d'Ivoire par 1-0. Les deux premiers de chaque groupe, rappelons-le, seront qualifiés pour les quarts de finale. En football, toujours Bagassi Koura, on va parler ce soir d'un chiffre record concernant le limogeage. En Angleterre, on dit qu'il y a 29 entraîneurs.
Oui. Ouais, 29 entraîneurs des quatre premières divisions anglaises, un chiffre record, comme vous dites, ont été limogés au cours de la première moitié de la saison. Selon une statistique de l'Association des entraîneurs de la Ligue anglaise, ce nombre d'entraîneurs limogés chérubins entre le 1er juin et le 29 décembre dernier est face au précédent record qui était de 27 sélectionneurs entraîneurs sur la même période en 2014. 6 entraîneurs en Première Ligue figurent sur cette liste, dont votre ami José Mourinho.
Et on va directement en basket, NBA. Et quels sont les derniers résultats, Bagassi Kouba?
Eh bien, Philadelphie a perdu 113 à 119 face à New York. Défaite également de Utah, 119 à 124 face à Charlotte. Portland s'impose 108 à 98 face à Washington. Et puis Chicago mené 111 face à Détroit, 101.
Merci Bagassi Kouba pour cette page sport.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgan Guiriec et Chérubin Dorsil en votre compagnie. Place au dossier du jour. Première escale, le Bénin.
Vincent Bolloré, industriel français, dont le groupe a signé en août 2015 la construction du chemin de fer Niamey-Cotonou, a de gros problèmes judiciaires, Morgan. Le 19 novembre, la cour d'appel de Cotonou, dans le cadre d'une procédure lancée par le groupe Petroline, a ordonné tant à l'État béninois qu'à Bolloré Africa Logistics d'arrêter tous travaux sur les composantes du projet Épine dorsale, un programme de développement des infrastructures.
Monsieur Bolloré a confirmé la suspension des travaux en attendant la fin des procédures judiciaires. Le groupe Bolloré a construit 140 km de tronçons entre Niamey et Dosso au Niger après avoir entamé les travaux en 2014 sans la moindre concession. La justice béninoise a donc mis un coup d'arrêt à la locomotive Bolloré. Idriss Fall a recueilli la réaction du milliardaire Samuel Dosso Aoré, patron du groupe Petroline.
Il s'agit d'un appel d'offres ferroviaires lancé par l'État du Niger et l'État du Bénin. Et le groupe Petroline a gagné cet appel d'offres. Donc il s'est avéré que le groupe Petroline se retrouve brusquement dessaisi de ses droits. Et nous avons fait appel et la cour d'appel de Cotonou nous a rétablis dans nos droits.
Mais Bolloré ne s'avoue pas vaincu pour autant.
C'est son choix. Soit il est d'un pays de droit, ce que je crois fermement, et il doit respecter le droit des pays africains.
En 2010, vous avez remporté l'appel d'offres, mais malgré tout, M. Bolloré est venu avec ses valises et a commencé à faire ses travaux.
J'ai gagné un appel d'offres en 2010. Entre-temps, il y a eu des problèmes douaniers entre les deux États qui ont été responsables d'un certain retard de l'évolution des dossiers. Et puis ensuite, les choses sont entrées dans l'ordre que Bolloré lui-même a demandé à être accepté comme partenaire stratégique dans mon appel d'offres que j'ai gagné. Et je l'ai accepté. Nous avons eu même entre Petroline et le groupe Bolloré un accord au terme duquel Bolloré, en tant qu'opérateur, ne mènera pas un projet concurrent à Petroline et en aucun cas ne s'adressera aux chefs d'État et aux États sans en convenir d'abord avec l'adjudicataire Petroline que nous sommes. Donc les choses avançaient clairement jusqu'au moment où, je ne sais par quel mécanisme, nous avons appris que nuitamment un accord a été signé en faveur de Bolloré qui était censé être l'opérateur dans notre projet.
La justice vous a donné raison. Quelle sera la suite donc maintenant?
Mais la suite, c'est que tout le monde respecte le droit. Donc en ce qui concerne Petroline, nous attendons que les deux États nous signent notre convention d'adjudicataire. Nous sommes concessionnaires, nous avons la lettre d'adjudication que les deux États nous ont écrite. La cour d'appel de Cotonou a dit le droit. La suite normale, c'est qu'on nous signe notre convention ferroviaire.
C'est une bataille qui n'est pas gagnée d'avance.
Pour moi, c'est gagné d'avance. Je suis un homme de droit, je respecte le droit. Maintenant, j'attends la réaction des États, je suis confiant. Et l'incidence Bolloré, pour nous, n'est qu'un accident de parcours.
Le milliardaire Samuel Dosso Aoré, patron du groupe Petroline.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, le point sur la récente attaque djihadiste au Burkina Faso, mais aussi plus largement sur la menace terroriste devenue omniprésente en Afrique. Que doivent faire les pays africains pour enrayer la menace et contrecarrer les tentatives de déstabilisation par les groupes djihadistes? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h TV.
Le gouvernement du Niger, en collaboration avec les agences de l'ONU à Niamey, essaie de répondre aux besoins de scolarisation et d'alphabétisation des déplacés originaires de la région de Difa. Ces derniers ont fui des attaques meurtrières du groupe djihadiste Boko Haram. Eric Manirakiza a joint à Niamey la chef de mission de l'UNICEF, Dr Viviane Van Startegem.
En général, il s'agit de construire des classes temporaires avec quand même un système de sanitation également. Pour le ministère, de pourvoir avec l'appui des partenaires dans tout le matériel pédagogique nécessaire parce qu'évidemment, dans leur suite, ni les élèves ni les enseignants n'ont amené ce matériel. Et pour certaines classes, il s'agit d'amener une petite adduction en eau. Alors pour le moment, il y a 77 classes provisoires qui ont été construites, mais il en faudrait presque trois fois plus pour pouvoir vraiment répondre aux besoins de scolarisation des enfants qui étaient antérieurement scolarisés. Mais sur les sites de déplacés, il y a aussi beaucoup de demandes en scolarisation et beaucoup de demandes en alphabétisation par les adultes. C'est une opportunité donc de répondre également à cette demande et de mettre ces services en place pour répondre aux besoins de la population. Les enseignants qui sont dans ces écoles de déplacés et les conseillers pédagogiques ont également été formés en appui psychosocial parce que c'est les personnes donc, qui seront en contact avec les enfants de 6 à 12 ans et qui peuvent, si l'enfant a été traumatisé par ce qu'il a vu ou traumatisé par le départ de son village, par sa fuite, peuvent aider la famille à prendre en charge ses enfants.
Est-ce que ces classes qui sont construites remplissent-elles les normes exigées pour faciliter l'apprentissage des enfants?
Pour le moment, peut-être encore pas tout à fait. C'est un travail en cours. Pour le moment, la plupart de ces classes provisoires avec juste plastic sheeting, donc c'est plutôt des abris, mais c'est des abris quand même où il y a des enseignants pour enseigner. Le matériel pédagogique est en train d'arriver et également le minimum de mobilier nécessaire pour faire fonctionner une classe de manière effective. Donc en gros, les conditions sont assez rudimentaires pour le moment pour les adolescents.
Et quand est-ce que vous envisagez le retour de ces élèves chez eux pour pouvoir reprendre les cours dans les conditions normales?
Ça, c'est une question à laquelle il m'est impossible de répondre. Dans la plupart des cas, ils ont leur champ très près de ces villages. Beaucoup d'entre eux sont venus sans leurs animaux. Donc ces animaux sont restés un petit peu à eux-mêmes près des villages. Donc j'imagine que ces gens sont assez pressés de retourner chez eux dès que les conditions de sécurité le permettront.
Docteur Viviane Van Sertegem, jointe à Niamey au Niger.
Dans l'est de la République centrafricaine, une épée de variole du singe au monkeypox virus s'est déclarée à Bakouma. Il s'agit de deux enfants de 5 et 9 ans d'une famille de chasseurs. Au total, 9 cas ont été hospitalisés, dont 2 décès. Pour l'heure, les autorités sanitaires ont pris des mesures préventives en vue de protéger la population. C'est la quatrième épidémie de variole du singe en République centrafricaine depuis 2001. Les explications du docteur Emmanuel Nakune Yandoko, de l'Institut Pasteur de Bangui, joint par Félix Sipassi Zimbro.
Il s'agit d'une famille de chasseurs qui aurait consommé un rongeur, le nom scientifique c'est Trionomys, localement appelé CBC. Et après avoir consommé, c'est le garçon âgé de 9 ans qui a eu d'abord les éruptions sur la peau. Ensuite, son cadet de 5 ans. Les deux enfants ont été amenés à l'hôpital régional de Bangassou par deux humanitaires. Et ils ont traversé un bac avant d'arriver à Bangassou. Il se trouve que les deux humanitaires qui ont aidé à transférer les enfants à l'hôpital de Bangassou et l'agent qui les a aidés à traverser le bac ont contacté la maladie. Ils sont arrivés à Bangassou. Il y a deux infirmières qui les ont pris en charge qui ont également été contaminées. Par la suite, la mère de l'enfant étant à côté avec un bébé de 15 mois ont contacté la maladie. En tout, il y a eu 9 cas hospitalisés, dont 2 décès. Un enfant de 5 ans et le deuxième enfant âgé de 15 mois de la même famille.
Comment elle se manifeste cette maladie?
La variole du singe, c'est une maladie virale. Après contact avec le virus, la période d'incubation peut aller de 6 à 15 jours. Et après, ça commence comme toute maladie virale. Quand le virus passe dans la circulation, ça commence par une fièvre suivie des éruptions maculo-papuleuses, de gros boutons sur la peau. La particularité de la variole du singe, c'est qu'on a les éruptions dans les paumes de la main et les paumes des pieds. Tout le corps du malade est couvert d'éruptions.
Et donc, c'est une maladie contagieuse?
C'est une maladie très contagieuse, en ce sens que le liquide contenu dans les vésicules contiennent du virus, malheureusement. Donc, c'est le contact avec une personne infectée, le contact avec le liquide, qui est le mode de contamination.
Le docteur Emmanuel Nakune Yandoko de l'Institut Pasteur de Bangui en République centrafricaine.
La voix de l'Amérique, Bangui 101.7 FM.
Et nous partons maintenant à Goma, dans l'est de la RDC. Des ex-enfants soldats traumatisés pratiquent la capoeira pour dépasser leur souffrance. Cet art martial brésilien leur est proposé dans un centre de transit et d'orientation avant leur réinsertion sociale dans les familles adoptives ou dans leur propre famille, pour ceux qui en ont encore. Plus de 700 ex-enfants soldats ont déjà bénéficié de ce programme. Charlie Kassereka s'est rendu dans ce centre, son reportage.
Deux fois par semaine, autour d'un encadreur technique ainsi que quelques éducatrices, les ex-enfants soldats suivent la séance de la danse capoeira.
Sourire et quelques pas de danse de la capoeira animent la journée.
Âgés entre 12 et 17 ans, certains d'entre eux ont passé 3 mois, même 2 ans, entre les mains des groupes armés. Les jeunes Faustin est ici depuis des mois, comme la trentaine d'adolescents rencontrés aujourd'hui au centre de transit. La capoeira en témoigne pour lui d'oublier un peu ce qu'il a vécu dans les forêts entre les mains des groupes armés.
Ce qui fait que je puisse aimer la capoeira, cette danse me fait oublier ce que j'ai fait quand j'étais dans le groupe armé. Autre chose, la capoeira me soigne aussi physiquement.
Diédoné, surnommé Ninja, la vingtaine révolue, lui-même un ex-enfant de la rue, après l'apprentissage de la capoeira à Kinshasa, il est venu à Goma pour accompagner les projets. Aujourd'hui, il enseigne la capoeira ici au centre des transits.
Quand on partage avec les enfants, il y a une partie qui nous accompagne à la capoeira, c'est les instruments. Une fois un enfant est traumatisé, quand il vient apprendre la capoeira, il joue la musique, il chante, il joue les tam-tams. Il y a beaucoup des instruments pour jouer avec la capoeira. On appelle ça bilimbao. Ça sert pour déstabiliser l'adversaire quand on joue à la capoeira.
Le projet a été lancé en 2014. Depuis, plus de 700 ex-enfants soldats sont passés par ici avant leur intégration sociale. L'UNICEF, qui soutient ces projets, parle d'un véritable succès. André Moussa est spécialiste protection de l'enfant à l'UNICEF Est de la RDC.
Nous n'avons reporté aucun incident en termes de violence par rapport aux enfants qui ont été réunifiés avec leur famille jusqu'à présent. Et nous pensons que la capoeira a pu apporter dans leur comportement des changements culturels qui ont permis à ce que les enfants qui ont été acteurs dans les groupes armés se stabilisent et apprennent des comportements sociaux qui sont responsables et qui permettent de véhiculer les messages de la paix.
Certains de ces adolescents ont été accueillis dans des familles adoptives, d'autres ont tout simplement regagné leurs familles respectives. Mais avant cette étape, ils suivent des formations en métier et des cours d'alphabétisation pour leur assurer une intégration complète dans le futur. Charlie Kassereka, Goma, pour VOA Afrique.
De ne pas rater votre rendez-vous avec le RM Show, comme tous les soirs à 20h, temps universel avec Roger Montou. C'est la fin de cette édition, à la mise en onde de Georges Léonard Seigneur et notre ami Régis à la console. Présentation Morgane Guiriaque et Chérubin Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On continue la conversation sur Facebook où vos questions et commentaires sont les bienvenus. Vous pouvez aussi partager vos photos et vidéos. Et n'oublie pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.